Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le grand plaisir d'accueillir le professeur James Stewart, qui donnera 4 cours au sujet de la justice pénale internationale. Il a été invité dans le cadre d'un partenariat, d'une convention entre le Collège de France et l'Université de la Colombie-Britannique de Vancouver. Une ville d'ailleurs magnifique, avec son port qui est le plus grand au Canada, mais aussi en raison de la beauté de son environnement et de la qualité de la vie qui fait que Vancouver soit considérée l'une parmi les 10 meilleures villes au monde où habiter. Le professeur Alain Supio, étant lui-même à l'étranger pour à mission pour le Collège de France, il m'a demandé de dire quelques mots d'introduction, ce que je fais très volontiers, même en dépit de ma compétence. Je suis un historien du droit, mais je peux apprécier qu'il y a beaucoup de points méthodologiques, au moins en commun, avec le travail du professeur James Stewart, qui a une carrière imposante. Car au cours des 20 dernières années, il a travaillé dans la justice pénale internationale en tant que praticien et en tant qu'universitaire. Il a rejoint la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique en 2009, où il enseigne ce qu'en France on appellerait la théorie générale du droit, mais aussi les droits internationaux publics et les droits de l'homme. Il avait été auparavant professeur pour 2 ans à la Columbia Law School à New York. Et avant de travailler aux États-Unis, il avait travaillé auprès du parquet du Tribunal pénal international des Nations Unies pour l'ex-Yougoslavie. Et aussi auprès du procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il s'agit d'expériences qu'on aurait envie de connaître de sa propre voix et que je pense ont marqué beaucoup même son approche théorique aux questions juridiques. Car il travaille principalement sur la relation entre les atrocités, les commerces, la justice pénale internationale. Son travail a reçu beaucoup de reconnaissance au niveau international. Il a reçu le prix Lapira pour un article sur l'emprisonnement illégal à Guantanamo. Et je souligne que Lapira est un juriste italien, d'ailleurs engagé dans l'étude du droit romain, mais aussi renommé pour son engagement humanitaire. Et en 2011, le Conseil canadien de la recherche lui a décerné le prix Aurora en tant que nouveau chercheur exceptionnel qui se forge une réputation de recherche passionnante et originale en sciences humaines. Et je pense que son travail le démontre. Il a écrit notamment un livre très important sur les crimes de guerre des entreprises. Condamner le pillage des ressources naturelles, en anglais et traduit aussi en français, où il a montré qu'il y a souvent une responsabilité des entreprises dans le pillage des ressources naturelles et que ça joue un rôle important dans l'alimentation même des conflits. Il a un intérêt en même temps pratique, ce qui est clair, mais aussi conceptuel. Il vient d'écrire un travail qui montre que le manque de regard historique a peut-être endommagé la reconstitution d'une théorie du droit pénal international, notamment que le concept de pluralisme, c'est-à-dire le fait que dans le cadre du droit pénal international, on reconnaît que toutes les traditions juridiques doivent être prises en compte pour assurer une légitimité internationale de ce type de justice qui n'est pas forcément ancrée dans le territoire et dans les pouvoirs étatiques, doit donc avoir des ressources de légitimation, une ressource de légitimation, notamment cette vision pluraliste. Mais il a très bien montré que parfois, sous l'étiquette de pluralisme, on voit très bien que qu'on a eu une circulation de modèles juridiques qui ne font pas qui n'assurent pas dans tous les cas le fait qu'il y ait vraiment un respect des traditions locales. C'est-à-dire que si un État reçoit de l'étranger des modèles juridiques, après on pense qu'il applique ses propres valeurs, tandis qu'il y a eu déjà dans le passé la réception de valeurs extérieures. Donc il faut prendre en compte aussi l'histoire. Je pense que sa contribution peut être la plus importante du point de vue théorique est celle à propos de la théorie de la causalité. Vous me permettrez de lui soustraire deux minutes pour lire un petit passage dans l'article, le début d'un de ses articles, où il dit « un événement est surdéterminé », donc la question paraît très, très abstraite, la surdétermination de la causalité. Il dit « un événement est surdéterminé s'il y a plusieurs causes suffisantes à son existence ». Un groupe de soldats de tir offre une illustration classique. Si 8 soldats sont alignés pour exécuter un prisonnier et tous tirent en même temps, aucun des soldats n'a fait une différence dans le sort de la victime. Elle serait morte, peu importe si l'un des soldats aura participé ou non. Donc, même si l'un des tireurs avait refusé de tirer, cette autre balle aurait toujours trouvé leur cible et mis fin à la vie du prisonnier d'une manière plus ou moins indiscernable. En effet, donc, ce groupe de tir a été constitué de manière à permettre à chacun des soldats qui ont participé à s'en aller dans le confort moral en se disant « je n'ai pas vraiment fait la différence, cela serait arrivé même sans moi. La difficulté est, le souligne James Stewart, que si nous sommes seulement responsables lorsque nous faisons une différence, aucun des soldats, ça semble un paradoxe, mais du point de vue logique, c'est la conséquence, si nous sommes seulement responsables lorsque nous faisons une différence, aucun des soldats n'est responsable de la mort. Et donc, je pense que vous avez très bien compris qu'est-ce que l'enjeu qu'il y a derrière ce type de raisonnement lorsqu'il s'agit de déterminer la responsabilité dans le cas d'atrocités commises dans le cadre d'un conflit. Je termine en vous conseillant de lire son blog. Et j'ai bien aimé la philosophie de son blog qu'il a exprimé en 6 points. Il a dit que son blog, qui d'ailleurs est très, je dirais, très savant et où on peut lire vraiment la fleur de sa recherche. Il dit que son blog est inspiré par le principe 1 de la critique respectueuse, 2 de la créativité normative. Le blog recherchera, célébrera, diffusera une créativité normative qui peut prendre la forme de critique conceptuelle novatrice, des tentatives visant à dépasser les paradigmes conceptuels dominants. 3. L'excellence esthétique. Donc, nous avons une attente très forte par rapport à sa conférence aujourd'hui. Une communauté intellectuelle plurielle, 4e principe. 5e règle, ce blog doit avoir une orientation principalement conceptuelle, parce que son travail est un travail vraiment ancré dans la tradition juridique, mais il faut aussi qu'il y ait, c'est le dernier point, une symbiose avec la pratique afin de renforcer le dialogue entre universitaires, praticiens et membres de la société civile. Je pense que ce sorte de liste de principes est le meilleur résumé de sa propre attitude, de son approche, de son activité scientifique. C'est dans cet esprit que j'ai l'honneur de lui livrer cette médaille du Collège de France, la médaille intitulée à Guillaume Budet, et qui est décernée aux professeurs qui sont invités au Collège de France, et je le fais aussi en votre nom, aussi qu'au nom de l'institution qui est ici représentée par le directeur de services internationaux.
Merci, professeur. Membres du Collège de France, invités, distingués, mesdames et messieurs, c'est un grand honneur pour moi, surtout en tant que Néo-Zélandais, d'être là parmi vous aujourd'hui pour vous présenter la première de cette série de 4 conférences sur l'histoire du droit pénal international au Collège de France. Bien que je ne suis pas historien de formation, je travaille dans ce domaine depuis 20 ans. D'abord comme procureur, chargé des crimes de guerre au Rwanda et à La Haye, et puis comme université pendant la grande majorité de cette période. En tant qu'universitaire, je consacrais au cours des dernières années beaucoup de temps et d'énergie à la recherche sur l'histoire de ce domaine. J'espère que cette combinaison d'expériences pratiques, de recherche scientifique et d'engagement dans l'histoire fournira une série de conférences offrant une orientation sur ce domaine qui vous permettra de mieux comprendre son potentiel et ses faiblesses. Avant de commencer avec la première période que je souhaiterais aborder, j'ai pensé qu'il serait peut-être utile de donner un bref aperçu de cette série de conférences. Comme vous le constaterez sur l'affiche annonçant cette série de 4 conférences, au cours du mois à venir, j'aborde chacune des principales étapes de l'histoire de la justice pénale internationale, à commencer aujourd'hui par les processus postérieurs à la Première Guerre mondiale et aboutissant à la création de la Cour pénale internationale il y a 16 ans. Il existe une nouvelle littérature intéressante et brillante dans la justice pénale internationale qui critique ce type d'histoire linéaire en raison de tout ce que sous qu'elle omet entre ces 4 étapes majeures et en raison de la manière dont elle promet faussement un degré inévitable de progrès dans ce domaine. Mon but, cependant, n'est pas de suggérer que tout progrès que nous pourrions discerner au travers de ce passé suggère un système sans défaut qui progresse, proposera éternellement. Au contraire, j'ai 4 thèses sur cette histoire sous lesquelles je reviendrai systématiquement au cours de 4 proches conférences. Excusez-moi, 4 prochaines conférences. Premièrement, depuis plus d'un siècle, la fin de chaque guerre mondiale a incité la justice pénale internationale à défendre un large éventail d'objectifs qui ne sont ni définis ni hiérarchisés de manière cohérente. Deuxièmement, je soutiens que la justice pénale internationale est constituée d'une tension entre les sentiments moraux très, très intenses à propos de la responsabilité pour atrocité et les politiques qui tendent à instrumentaliser ces sentiments de l'autre côté. Troisièmement, L'histoire de la justice pénale internationale est souvent une tentative réactionnaire de reconstituer l'équilibre entre ces deux pôles, la moralité et le pouvoir, à la lumière des lacunes d'une période antérieure. Quatrièmement, il est peu probable que le sentiment moral ou le pouvoir revendique la victoire finale de l'un sur l'autre dans notre réflexion sur la responsabilité pour atrocité. En conséquence, l'histoire des procès internationaux révèle quelque chose de significatif sur le potentiel et les limites de la justice pénale internationale dans l'ordre juridique mondial actuel. Je n'en dirai pas plus long sur ces thèses maintenant, mais j'y reviendrai dans le cadre des quatre conférences et à la fin pour expliquer comment les diverses histoires que nous explorons les soutiennent. Sur le plan de la forme, j'utilise cinq théories pour expliquer l'histoire de cette justice pénale internationale au cours de chaque période, en espérant que le cadre que j'adopterai aidera à identifier les conclusions que je mentionne. Les cinq thèmes que j'utilise comme cadre dans l'ensemble de mes quatre conférences sont les suivants. Premièrement, je commence cette discussion et les suivantes par une introduction narrative au procès en question, à savoir les procès postérieurs à la Première Guerre mondiale, les procès de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale, les tribunaux pénaux internationaux pour l'ex-Yougoslavie et le Rwanda après la guerre froide, et le tribunal permanent, la Cour permanente de la et maintenant la Cour pénale internationale. Deuxièmement, j'explorerai les objectifs des procès pour agression, crimes de guerre, génocide et crimes contre l'humanité, tels qu'exprimés dans la mise en place de chaque de ces systèmes de justice pénale. Les objectifs étant nombreux et mal intégrés, je vais en identifier un ou deux par période particulièrement propice. Troisièmement, je discuterai des dimensions politiques de ces procès, en particulier de la relation entre les procès et la réparation de pouvoir dans l'ordre juridique mondial. Je soutiens qu'une tension fondamentale dans le domaine de la justice pénale internationale existe entre l'instrumentalisation des procès par les puissants et des exigences morales en faveur à la fois de la responsabilité et de l'égalité. Quatrièmement, j'examinerai les alternatives aux poursuites pénales au cours de chacune des périodes historiques dont je discute. Comme nous le verrons, ces alternatives incluent tout des exécutions de masse aux interventions militaires en passant par les commissions pour la vérité et la réconciliation. En traquant différentes alternatives pour chaque période, j'espère isoler les contingences de chaque moment, ce qui devrait révéler quelque chose à propos de l'identité du terrain. Cinquièmement, je parlerai de droit. Le droit est important pour cette histoire car il constitue une considération politique cruciale, parfois décisive, dans ces histoires. Aucune des lois que je mentionne n'est un détail technique. De plus, les mêmes problèmes juridiques refont surface à maintes reprises pendant toutes ces périodes. Certains acteurs adoptant des positions inverses les unes par rapport aux autres. Ces volte-face sont également révélateurs de l'identité du terrain. Sixièmement, j'ai l'intention de parler des conséquences de ces procès. Toute évaluation des conséquences des procès pour crimes de guerre se heurtera à une preuve de la causalité et à un risque de spéculation injustifiable. Mais j'espère parler de la manière dont ces procès ont vraisemblablement atteint leurs objectifs dans certaines circonstances, ainsi que des réputations parfois très négatives qui semblent avoir découlé d'eux chez d'autres. Permettez-moi de commencer alors avec mon premier thème et narratif concernant les procès postérieurs à la Première Guerre mondiale. À mon sens, on comprend mieux l'histoire de la justice pénale internationale pendant et après la Première Guerre mondiale comme comprenant au moins trois parties interconnectées. D'abord, les tentatives infructueuses des gouvernements de l'entête victorieux de juger l'Allemand Kaiser Wilhelm II devant un tribunal international. Deuxièmement, une série d'environ 1600 procès d'armée allemande par coutumance en France et en Belgique peu de temps après la guerre. Et troisièmement, une série d'affaires largement ridicules portées devant le tribunal du district de Leipzig que l'entête a accepté à contre-cœur après que l'Allemagne eut refusé d'extrader ses ressortissants vers des nations victorieuses. Avant que nous ne commençons avec ces détails, il faut savoir que le Kaiser a passé ses journées dans un château hollandais, sans avoir été jugé nulle part. Et la combinaison des procès par coutumas en France et en Belgique, d'une part, et en personne par les tribunaux de la défaite à Leipzig, de l'autre, n'était guère plus qu'une poursuite de la guerre par la baisse des procès. Sur les 1600 personnes jugées par coutumas, il n'est pas clair qu'une n'ait jamais été appréhendée. Et à Leipzig, le procureur a déclaré publiquement que 861 allégations sur 901 avaient été jugées publiquement sans réponse, souvent dans les termes qui défient délibérément toute motivation contraire d'un tribunal français ou belge. Après vous avoir donné un aperçu, permettez-moi de passer à mon deuxième thème, les objectifs de ces procès de l'après-guerre. De nombreux chercheurs ont souligné que les objectifs de la justice pénale internationale étaient multiples, largement implicites et souvent contradictoires. Je présente ici certains des objectifs qui ressortent d'une lecture de la littérature de la Première Guerre mondiale, laissant d'autres objectifs pour mes conférences ultérieures. Le premier facteur de motivation pour les essais postérieurs à la Première Guerre mondiale est une punition basée sur l'indignation morale. L'Europe a perdu une grande partie de sa population masculine, laissant des veuves, des orphelins et des frayeurs. Ainsi, il n'est pas difficile de trouver des preuves d'indignation morale et des désirs rétributifs qu'elle suscite. Le premier ministre italien, Vittorio Emanuele Orlando, par exemple, a déclaré un état de colère et de rancune qui a explosé immédiatement après l'armistice. De même, des témoins français et belges qui ont témoigné à Leipzig ont apparemment, je cite, « et la haine ». La punition a transformé en partie ce sentiment fort dans les poursuites. Le président français à l'époque, Clemenceau, par exemple, a qualifié le projet de procès contre le Kaiser comme, et je cite, « acte de justice internationale de vengeance mondiale ». Certes, une grande partie de l'indignation morale qui a suivi la Première Guerre mondiale a été construite publiquement grâce à l'utilisation de la propagande d'atrocités. De plus, cette rage était très sélective, très locale, et exploitée à des fins politiques très particulières. Néanmoins, l'indignation morale était et reste omniprésente dans tous les aspects de l'histoire de ce domaine. De plus, alors que les critiques telles que Gary Simpson considèrent les procès pénaux internationaux comme une vengeance des droits de l'homme, de nombreux ouvrages philosophiques défendent le châtiment comme une réponse appropriée et proportionnée à un acte répréhensible. Quoi qu'il en sorte, comme je le mentionnerai, l'indignation morale a donné une impulsion majeure aux procès internationaux. Un aspect de cet outrage moral s'est avéré particulièrement fructueux dans l'histoire de ce domaine, à savoir les expressions publiques d'absurdité morale face au manque de responsabilité pour atrocité. Par exemple, l'excellente nouvelle recherche par William Shabbas sur les tentatives de juger le Kaiser révèle une conversation entre un colonel américain, Luke Lear, et le duc anglais qui avait un lien parenté avec Wilhelm II. Faisant savoir que Wilhelm devrait être jugé, Lear affirmait ce qui suit, et je cite, « Pourquoi ceux qui étaient non responsables de la guerre et contre qui nous avions fait la guerre, le peuple allemand, seraient-ils tués, blessés et emprisonnés ? Et la seule personne contre qui nous avions réellement mené la guerre, le Kaiser, échapperait à la peine mais serait autorisée à vivre sous toute l'apparat et la gloire avec toute sa fabuleuse fortune intacte. » De même, le Premier ministre britannique Lloyd George a partagé sa propre absurdité morale de la manière suivante. Il a dit, et je cite encore, « Supposons qu'en temps de paix, le Kaiser, agissant seul, ait transféré la frontière belge avec un fusil et tiré sur les habitants. Les premiers policiers belges sur place aurait eu le droit de l'arrêter et de le faire pendre. Devrait-il rester impuni parce qu'au lieu de le faire lui-même, il a envoyé 1 million d'hommes en Belgique ? Je reviendrai régulièrement sur ce type d'argumentation tout au long de ces conférences, car ce sont de caractéristiques communes du domaine. Les arguments concernant l'absurdité morale sont particulièrement importants dans la manière dont ils tentent de transformer l'ordre juridique mondial. Le changement structurel majeur intervenu après la paix de Westphalie à la suite de la guerre de 30 ans en 1648 était un système de gouvernance mondiale qui a rendu les États souverains et formellement égaux au sein de l'ordre juridique mondial. Après la Grande Guerre, beaucoup ont vu dans la justice pénale internationale un moyen de remédier aux absurdités morales au sein de l'ordre juridique mondial. Par exemple, se référant aux attentes du public que ces procès susciteraient, Clemenceau a proclamé que, je cite, justice sera rendue à l'avenir dans les cas de Kaiser et des Kings, tout autant que dans le cas des hommes ordinaires. Si cela pouvait être réalisé, le droit pénal international qualifierait de magnifique avancée le progrès et la révolution morale. De même, le professeur Larnon, un Français ici à Paris, a déclaré triomphalement qu'un nouveau droit des gens est né. Tandis que le professeur Hersh Lauterpacht, un Britannique, a décrit la perspective de la responsabilité pénale après la Première Guerre mondiale comme un avertissement solennel à tout futur agresseur. Cette nouvelle justice a été su comme un outil permettant de transformer l'ordre juridique mondial après un bouleversement social gigantesque, et non comme un simple mécanisme pour délégitimer un ennemi vaincu. Bien entendu, la dissuasion était aussi une ambition majeure. Parallèlement aux avertissements émis par les Alliés à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français a déclaré le 5 octobre 1918 que, et je cite, « des actes aussi contraires au droit international et aux principes même de la civilisation humaine ne devraient pas rester impunis ». Fin de citation. Vraisemblablement, le désir était de dissuader d'autres crimes. Cette dissuasion était également importante pour un comité britannique chargé d'examiner l'incrimination de droit international. La commission a conclu qu'un tribunal international, et je cite, constituerait un moyen de dissuasion et d'avertissement pour les hauts responsables. Enfin, l'incapacité était l'un des principaux arguments en faveur des procès postérieurs à la Première Guerre mondiale. L'importance de l'incapacité est devenue particulièrement apparente dans les débats souvent passionnés entre les puissances de l'entête et le gouvernement néerlandais neutre qui a refusé de violer les principes régissant la neutralité en renvoyant le Kaiser pour jugement. Après qu'il a été clair que les Néerlandais n'accepteraient pas un procès devant un tribunal international, l'entête a travaillé dur pour que le Kaiser soit exilé à la Napoléon, comme il disait à l'époque, dans une lointaine colonie où il ne pouvait pas reprendre la guerre. Lorsque les Néerlandais ont également désapprouvé cela, selon William Shabas, Lloyd George a écrit une lettre énergique affirmant que se serait-il passé si Napoléon, au lieu d'être capturé et interné à l'étranger, avait réussi à s'enfuir en Suisse. La capacité était à l'évidence également une préoccupation majeure. Cela nous amène au troisième thème principal que j'ai mentionné au départ. Alors, qu'en est-il des dimensions politiques de ces procès ? Après la Première Guerre mondiale, l'application unilatérale du droit pénal international était manifeste à plusieurs niveaux. D'une part, la preuve abondante d'infractions allemandes hors d'Europe a été documentée mais ignorée. L'université sud-africain Christopher Givers a écrit un excellent article montrant comment l'entête a documenté le génocide allemand des peuples Herero et Namaqua dans la Namibie actuelle, mais que cet épisode n'a jamais figuré dans la réflexion sur la justice pénale internationale après la guerre. De même, l'historien Mark Lewis montre comment le génocide arménien et les crimes commis par la Bulgarie contre ses voisins balkans ont été largement négligés dans l'indignation morale très sélective qui a appelé à des procès après la Première Guerre mondiale. Mais la manière dont l'entête présumait que seuls les soldats ennemis pouvaient être poursuivis était l'aspect le plus frappant de cette partie politique. Cette partialité a été très clairement exprimée lors des négociations avec les autorités allemandes concernant les dispositions du traité de Versailles relatives à la culpabilité de guerre, lorsqu'un responsable allemand avait promis que son pays soumettrait ses citoyens à un jugement par un tribunal international composé des juges des pays neutres, qui avait le pouvoir d'inculper les dirigeants militaires et politiques des puissances de l'entête, ainsi que les Allemands. Le fait que cette suggestion ait été rapidement écartée suscite l'inquiétude quant au fait qu'il s'agisse de procès spectacle. Il est important de noter que l'Allemagne a pu résister à l'imposition de la justice du vainqueur, imposée par l'entête. Lorsque l'Allemagne a accepté le traité de Versailles, sa seule réserve concernant les dispositions relatives à la culpabilité de guerre, auxquelles elle a catégoriquement refusé de se conformer. De façon remarquable, le gouvernement allemand était prêt à tout risquer. Comme le notent Horn et Kremer, il est remarquable qu'un gouvernement démocratique de la République d'Allemagne dispose à accepter un traité imposant de sévères restrictions territoriales et économiques, limite l'armée à 100 000 hommes et interdise la conscription, dirige le risque d'effondrement de la paix et d'invasion en raison d'accusations d'actes criminels contre l'ancien régime. Mais c'est ça qui est passé. En conséquence, l'Allemagne a pu négocier ce que j'appelle la justice des vaincus, le pays responsable des atrocités, acceptant de poursuivre ses propres ressortissants pour crimes internationaux. La Première Guerre mondiale est le paradigme des problèmes posés par cette approche. Dans l'ensemble, les procès postérieurs à la Première Guerre mondiale sont une histoire de pouvoir et de résistance, le tout dans l'ombre d'un scandale moral intense mais sélectif. Cela nous amène au quatrième thème principal, les solutions de rechange aux poursuites. Je me concentre sur ce thème ici et tout au long de cette série de conférences, car cela contribue à isoler la contingence historique de la justice pénale internationale. Là encore, je n'ai pas l'intention de traiter de manière exhaustive les alternatives de poursuite pour crimes internationaux. Au lieu de cela, je soulignerai ce que je perçois comme une alternative particulièrement importante à chaque époque. Après la Seconde Guerre mondiale, une exécution sommaire simple était l'alternative la plus évidente à la poursuite. Mais je n'en parle que brièvement ici, car on pourrait en dire beaucoup plus à ce sujet lors de notre prochaine conférence sur la justice pénale internationale après la Seconde Guerre mondiale. Néanmoins, il est important que nos conférences ultérieures notent les discussions sur la soumission du Kaiser à une exécution sommaire. Après tout, il est d'un intérêt historique majeur que l'idée d'un procès pénal soit aperçue lorsque « Hang the Kaiser » était un slogan politique populaire en Grande-Bretagne et probablement dans une grande partie de l'Europe à cette époque. Il ne fait aucun doute que le précédent en matière de mise à mort extrajudiciaire d'un défunt déchu ne manquait pas. Pour l'instant, il suffit de noter comment la possibilité d'une exécution sommaire du Kaiser a été déclarée au plus haut niveau du gouvernement après la Grande Guerre. L'histoire remarquable de William Shabas cite les écrits d'un responsable britannique selon lesquels le premier ministre britannique Lloyd George, et je cite, « veut tirer sur le Kaiser. Winston, il n'est pas d'accord. » Fin de citation. Comme nous le verrons plus tard, le fait que Winston Churchill ne soit pas d'accord avec l'exécution postérieure à la Première Guerre mondiale contrastera par la suite avec ses idées sur les nazis après la Seconde Guerre mondiale. Winston Churchill était un ardent défenseur des poursuites pénales au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais il a tiré ses leçons de Leipzig. Au lieu de me concentrer sur l'exécution, j'aborde ici l'alternative de l'exil. À l'époque, l'exil de Napoléon Bonaparte vers l'île de Saint-Hélène offrait un précédent évident pour la situation du Kaiser et non un procès devant un tribunal pénal nouvellement créé. Juristes et hommes politiques ont discuté du précédent de Napoléon à de nombreuses reprises avant et après le traité de Versailles. Napoléon n'a été sauvé que de l'exécution par les Britanniques, qui l'ont traité comme un prisonnier de guerre. À l'époque, il n'avait pas vraiment le désir de juger Napoléon pour crimes internationaux, même si son incapacité était une priorité majeure pour la stabilisation de l'Europe. Après la Première Guerre mondiale, divers comités, savants et hommes d'État ont travaillé sans relâche pour différencier Napoléon du Kaiser afin de faire de la place pour la nouvelle justice, même s'il était largement reconnu que les deux options étaient viables. Apparemment, Clemenceau était fortement en faveur d'un procès, car, et je cite, elle envisageait d'être beaucoup plus impressionnante. Fin de citation. D'une certaine manière, ses espoirs ont finalement été largement déçus, car le Kaiser a vécu ses journées dans le luxe, un château hollandais, plutôt que de faire face à quelconque procédure juridique. Cependant, contrairement aux périodes précédentes, la victoire de l'exil n'était pas complète. Les subordonnés de Kaiser ont été jugés dans des procès pénaux par coutumas en France et en Belgique, et en personne à Leipzig. Néanmoins, la plupart des longues négociations passionnées et parfois hostiles sur la responsabilité pénale du Kaiser ont ouvert la voie à la montée en puissance de la justice pénale internationale moderne au cours des années suivantes. Comme nous le verrons plus tard, nombreux sont les mêmes acteurs qui ont adopté une position inverse lorsqu'ils ont été amenés à examiner exactement ces mêmes questions après la Seconde Guerre mondiale. Cela nous amène au quatrième thème que je souhaite utiliser pour explorer l'histoire de la justice pénale internationale dans toutes les conférences que je donnerai ici. Ce quatrième thème est le droit. À l'instar de nombreuses facettes de cette histoire, les difficultés juridiques liées aux poursuites après la Première Guerre mondiale réapparaissaient à maintes reprises à toutes les étapes de cette histoire. Je me limiterai ici à deux domaines du droit, notamment les difficultés à décider d'appliquer le droit international ou le droit national à ces poursuites et le problème de droit rétroactif. Ces deux questions avaient une énorme signification politique après la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, la question est de savoir s'il convient d'appliquer le droit international ou le droit national à ces poursuites. En fin de compte, la justice post-Première Guerre mondiale a appliqué les deux. Mais cette double application a souligné une tension majeure entre ces sources de droit. Cette tension persiste jusqu'à ce jour. En ce qui concerne le Kaiser, une question importante se pose. Pourquoi ne pas le juger devant les tribunaux militaires ordinaires en France, en Belgique ou en Grande-Bretagne? Les premières enquêtes ont montré que la législation nationale ne suffirait pas à couvrir de telles allégations, ce qui n'était pas surprenant étant donné que la plupart des reproches adressés au Kaiser n'avaient aucune précédent. Apparemment, un tribunal international pouvait mieux trouver le droit nécessaire. En outre, la crédibilité de la condamnation dépendait de l'impartialité du processus ainsi que du prestige de l'institution qui rendait le verdict. De sorte qu'un tribunal international unifié conviendrait mieux à un procès de cette importance mondiale. Comme le soulignaient les deux principaux professeurs de droit français, Ferdinand Larnaud et Albert Goffre de La Pradelle, et je cite, « Il faut une juridiction plus élevée, des débats plus retentissants, une scène plus grande. » Fin de citation. Ainsi, par un processus d'élimination, l'internationalisation des poursuites pénales a été justifiée. Les juridictions nationales étaient contrôlées politiquement par les auteurs des crimes. juridiquement non préparées pour traiter des problèmes et structurellement insuffisantes pour condamner l'infraction avec suffisamment de force et rhétorique. Pourtant, le débat sur la question de savoir si les tribunaux nationaux sont préparés aux tribunaux préférables aux tribunaux internationaux reste un dilemme central pour la justice internationale moderne. Et en tant que grand spécialiste britannique de la période observée en 1929 dans un article intitulé « A-t-on besoin d'un cours pénal international ?», professeur Brierley affirme le suivant. Cela ne veut pas dire que, parce qu'un processus d'élimination semble nous ramener à l'idée d'un tribunal international, une solution du problème sera trouvée là. Il se peut qu'il n'y ait pas de solution. Fin de citation. C'est apparemment ce qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Il n'y avait pas de solution. Pris dans son ensemble, le système de responsabilité résultant du processus dont je discute ici a conduit à un réseau de tribunaux nationaux qui a traité ces procès en France, en Belgique et en Allemagne, ainsi qu'un débat public riche sur les tribunaux internationaux pour le Kaiser en particulier. Le droit de ces institutions appliquerait considérablement d'une juridiction à l'autre. Par exemple, le tribunal de Leipzig a appliqué la procédure pénale allemande, mais celle-ci n'a pas satisfait tous les publics. Claude Mullins, un Anglais bilingue, envoyé couvrir les procès de Leipzig pour le compte des Britanniques, a observé que le système de procédure juridique en vigueur sur le continent diffère en de nombreux points essentiels de celui en vigueur en Angleterre. En tant que problème récurrent pour le droit pénal international, il a conclu sa comparaison juridique en observant que la procédure frappera tous les avocats anglais comme étant étrange et dangereuse. La loi rétroactive est une deuxième question juridique récurrente dans l'histoire des procès postérieurs à la Première Guerre mondiale, qui, à l'instar des autres sujets dont je traite ici, avait une signification politique majeure. Les réticences suscitées par une loi rétroactive sont des facteurs cruciaux du refus du gouvernement des États-Unis d'appuyer la création d'un tribunal international chargé de juger le Kaiser. En 1918, par exemple, le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a déclaré clairement « Ce n'est pas correct de qualifier rétroactivement un tel acte, de faire de ce type d'acte un crime personnel après qu'il a été commis. » D'autres, comme le secrétaire d'État américain Robin Lansing, ont organisé une sorte de campagne contre le tribunal, invoquant souvent une loi rétroactive pour fonder leur point de vue. De même, les dangers de la loi rétroactive constituaient également une base pour la protestation allemande contre l'idée d'un nouveau tribunal et un motif principal de refus néerlandais d'extrader le Kaiser. Tout cela est particulièrement intriguant, bien sûr, car moins de 3 décennies plus tard, ces gouvernements ont joué un rôle actif dans la création d'un nouveau groupe de tribunaux international pour poursuivre le même corps de droit dont ils avaient nié avec tant de force l'existence après la Première Guerre mondiale. Là encore, on constate une forte réaction face à la résolution des problèmes d'une époque antérieure. Cela nous amène à notre dernier thème, les conséquences de ces poursuites. Les conséquences des poursuites pénales étant particulièrement difficiles à définir avec le plus de certitude possible, je sélectionnerai celles qui me paraissent particulièrement évidentes à la lecture de cette histoire. Premièrement, il est clair que la justice des vaincus a échoué en tant que projet. Après l'un des premiers procès à Leipzig, Les Belges se sont retirés et ont qualifié les processus de paradis de justice. En outre, après 2 jours de discussions à Paris en 1922, une commission interalliée a qualifié les procès de très insatisfaisants et une justice subjective, partielle. Pour les puissances de l'entête, le fait que le tribunal de Leipzig soit un instrument pour les auteurs de crimes a réduit le nombre de procès à des exercices de propagande qui ont probablement exacerbé la haine. Comme l'historien James Willis a déclaré, loin d'être résoudre le problème des peines de crimes de guerre, les procès de Leipzig ont créé un ressentiment supplémentaire entre l'Allemagne, la Belgique et la France. Pour donner 2 exemples dans la recherche de l'historien allemand Gerd Hankel, alors qu'en août 1914, dans le nord de la France, le lieutenant général Karl Stenger aurait ordonné que tous les prisonniers soient massacrés, les blessés, armés ou non, doivent être massacrés. Même les hommes capturés dans les grandes unités organisées doivent être massacrés. Aucun ennemi ne doit rester en vie derrière nous. Comme de nombreux Français ont été tués à la suite de cet ordre, le gouvernement français a classé Stenger en tête de sa liste des accusés de guerre, qu'il voulait extrader vers la France pour y être jugé en vertu du traité de Versailles. Au cours de son procès à Leipzig, Stenger a nié avoir donné l'ordre malgré les preuves de son subordonné. Néanmoins, le procureur du chef du Reich, c'est-à-dire l'accusateur formel de Stenger, a déclaré, et je cite, « Je le crois, comme je l'ai dit, complètement. » Fin de citation. Le but de son procès, et je cite encore, était donc simplement de le confirmer spécialement à un public étranger. Fin de citation. Après l'acquittement de Stenger, une foule nombreuse s'est rassemblée devant le palais de justice de Leipzig pour lui offrir des fleurs et cracher sur la délégation française en partance. Dans un deuxième exemple que Gerd Hankel explore, on révèle la relation entre les procès par coutumas en France et en Belgique et ceux de Leipzig. Selon Hankel, en 1922, le gouvernement allemand a écrit au tribunal de Leipzig au sujet d'un colonel von Giesse, condamné à mort lorsqu'un procès par coutumas tenu en Belgique. Dans sa lettre, le gouvernement allemand expliquait que le colonel souhaitait que son dossier soit réglé à Leipzig dans les meilleurs délais et qu'il souhaitait utiliser la décision de la Cour du Reich pour faire valoir ses droits dans les pays et à l'étranger. La lettre conclut que, et je cite, « Étant donné que l'affaire est très bénéfique pour nos objectifs de propagande, je vous serai particulièrement reconnaissant de bien vouloir accepter le désir de colonel von Giesse de voir son affaire aboutie rapidement. » Fin de citation. L'affaire a apparemment été classée moins d'un mois plus tard, comme demandé. Indépendamment de ces illustrations concrètes, il existe sans doute une série de facteurs permettant de conclure que ces procès exacerbent la violence en plus de contribuer au ressentiment. Plusieurs spécialistes suggèrent que l'entête était vraiment motivée à organiser ces procédures pénales car elle était importante pour justifier les coûts humains et économiques colossaux de la Grande Guerre en Grande-Bretagne, en France et en Belgique. Si cela est vrai, elle voudrait dire que la justice pénale internationale peut contribuer à la guerre en aidant à la justifier de manière post hoc. En outre, dans le cadre d'un accord de paix exceptionnellement dur, qui humiliait si profondément l'Allemagne, ces procès pourraient également avoir contribué à la résurgence de la guerre des décennies plus tard. Rappelez-vous que la culpabilité de la guerre était de loin l'aspect le plus sensible du traité de Versailles et que les Allemands courait le risque de faire la guerre à l'extérieur et de faire la révolution à l'intérieur afin d'éviter de se conformer à ses exigences dans le cadre d'un accord de paix qui les juge paralysants. Il y a eu aussi des accidents de fait avec les procès de Leipzig. Adolf Hitler, par exemple, a rencontré pour la première fois Hermann Göring lors d'un rassemblement de protestation contre les procès de Leipzig en 1922. Bien entendu, cette histoire était révolutionnaire pour la notion de responsabilité pénale individuelle pour crimes internationaux, qui prenait au sérieux l'indignation morale niée des atrocités. Comme je l'ai dit, après avoir travaillé personnellement sur les atrocités, je prends cet outrage moral au sérieux et je considère qu'il est souvent légitime et le considère comme douté d'une influence politique importante. Mais la manière dont nous perçons les procès en son nom devra attendre que nous ayons terminé cette série de conférences, ce qui nous permettra de voir où les idées centrales annoncées après la Première Guerre mondiale nous ont conduit et où elles peuvent aboutir. Il va sans dire, cependant, que les idées sur la décision se sont avérées incapables d'empêcher une deuxième conflagration mondiale quelques décennies plus tard. En somme, une grande partie de la littérature sur le droit pénal international s'appuie de manière injustifiée sur Nuremberg, mais l'histoire du droit pénal international remonte très clairement à plusieurs décennies plus tôt. Après la Grande Guerre, de nombreux objectifs incohérents avaient été annoncés pour cette nouvelle justice, mais ils étaient très étroitement liés au pouvoir. L'idée du droit pénal international a réussi à prévenir des exécutions, mais seulement partiellement à vaincre l'exil. La notion de justice vaincue, résultant de la résistance acharnée des Allemands à assumer la responsabilité de la guerre, était au mieux inutile et probablement contre-productive. Néanmoins, cette expérience ainsi accumulée a certainement fait que les Alliés travailleront dur pour ne pas la répéter. Lorsque la Commission des Nations Unies pour les crimes de guerre a été créée en 1943 afin de commencer les préparatifs des procès des nazis, son président a annoncé sa détermination à, et je cite, « ne pas répéter le fiasco de Leipzig ». Fin de citation. La grande réaction a donc alors commencé. Lors de la prochaine conférence, je parlerai de Nuremberg et de Tokyo après la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie.